sur l'état du monde, puisque c'est un cycle maintenant qui a 12 ans. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez suivi, nous avons consacré un cycle sur la Chine, un cycle aux problèmes écologiques contemporains, et un dernier cycle à la fin de l'année 98, un grand cycle sur la question des massacres au XXe siècle. Avec Mohamed Harkoun, ce soir, que je remercie et que j'accueille ce soir, nous entamons un cycle conçu en collaboration, comme vous le savez, toujours avec la Fondation nationale des sciences politiques et Courrier international. Un cycle de 3 conférences, ou plus exactement, un cycle d'une conférence et de deux tables rondes. Première conférence, qui sera une conférence de cadrage sur la question de la pensée islamique contemporaine par Mohamed Harkoun. Et puis, dans le mois prochain, un dialogue entre deux professeurs à l'Institut d'études politiques, Olivier Roy et Rémi Leveau, qui traiteront de la question « L'islam politique est-il un danger ?» Enfin, au mois de mars, un dialogue entre Tariq Ramadan, professeur à l'Université de Genève, et Farhad Khosrokovar, qui est chercheur à l'EHESS, sur la question « Y a-t-il un islam libéral ?» Alors, deux mots pour présenter le professeur Mohamed Harkoun, que vous connaissez probablement d'ailleurs tous. Il est professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il enseigne également dans de nombreuses universités européennes et américaines. Il continue de donner de nombreuses conférences dans les pays islamiques, ce qui lui donne d'ailleurs l'occasion de s'informer régulièrement et de suivre les mouvements de cette pensée islamique contemporaine. Il s'intéresse en particulier, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir, au renouveau de la pensée islamique face aux défis auxquels elle a à faire aujourd'hui. Je lui laisse tout de suite la parole. Je vous remercie de votre attention. Après la conférence, vous pourrez évidemment poser quelques questions, puisque des micros tourneront dans la salle. Merci encore.
Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole dans ce haut lieu de la culture et de la pensée française. Et je suis également heureux de voir qu'un public nombreux s'intéresse à la pensée islamique, à entendre parler de la pensée islamique, un sujet qui n'est pas souvent évoqué, alors que l'actualité, vous le savez, invite à découvrir que par-delà les violences que nous vivons chaque jour dans un grand nombre de pays islamiques, il existe une riche tradition de pensée qui a partie liée sur le plan intellectuel comme sur le plan spirituel et culturel avec les développements de la pensée européenne. Ce point est capital pour essayer de mieux situer les événements que nous vivons et qui provoquent de nouvelles ruptures au sein de l'espace méditerranéen qui a connu au cours de l'histoire, en relation justement avec l'émergence de l'islam entre 610 et 632, qui a connu de nombreuses ruptures successives entre une Europe chrétienne, longtemps chrétienne, et une Méditerranée arabo-turco-iranienne. Vous voyez les dimensions tout de suite que je voudrais donner à notre réflexion ce soir. Je marque tout de suite que la pensée islamique, qui dès l'origine et dès sa première manifestation dans le Coran s'exprime en langue arabe, s'est très vite répandue dans le monde méditerranéen et par-delà le monde méditerranéen pour devenir une pensée de référence, donner des valeurs de référence à une pensée qui reste islamique mais qui s'exprime dans un grand nombre de langues dans le monde, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc, et depuis l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, les anciennes républiques soviétiques, jusqu'à l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi je voudrais d'emblée vous prier de regarder la carte devant vous et de réaliser que lorsqu'on parle de la pensée islamique, on parle des cultures du monde. Il est très important aujourd'hui de réaliser cela pour bien mesurer le poids historique, non seulement du monde islamique en tant que monde humain, très diversifié, son poids dans le développement de notre histoire contemporaine, mais également la présence d'une pensée qui est très mal connue en Occident parce qu'elle n'est pas enseignée, presque pas, sauf dans les départements que nous appelons les départements d'orientalisme, et qui sont des départements très modestes dans les universités où ils existent, l'enseignement de cette pensée dans les lieux de l'université et de la recherche, comme dans les départements d'histoire, les départements de philosophie, les départements d'histoire des religions, les départements d'anthropologie, les facultés de droit, car il y a un droit d'inspiration islamique, normalement dans tous ces lieux de la transmission de la connaissance et dans toutes les institutions de recherche au CNRS, par exemple, ce monde-là, cette pensée diverse, qui a de plus en plus une présence dans le monde, devrait avoir une part plus grande que la part qui lui est faite jusqu'à présent. Ça aussi, c'est une première chose que je voudrais introduire pour essayer de nous rendre sensibles au fait que le retour du religieux, comme disent les sociologues parmi nous, le retour des références aux enseignements des religions après plus d'un siècle de développement d'une pensée scientifique, laïque, qui a laissé croire que le religieux était dépassé et qu'il doit être dépassé. Le retour du religieux parmi nous nous prend au dépourvu parce que l'orientation de la recherche en sciences de l'homme et de la société en Europe a négligé cette part extrêmement importante de l'histoire de toutes les cultures, de l'histoire de toutes les sociétés. Comment nous introduire, cela étant, à ce que nous appelons la pensée islamique? D'abord, le mot « pensée » lui-même. Le mot « pensée » lui-même recouvre toutes les activités de l'esprit humain, aussi bien dans l'ordre intellectuel, que dans l'ordre littéraire et artistique, que dans l'ordre politique, et dans l'ordre, bien sûr, religieux, spirituel, éthique. Je préfère en effet utiliser le mot « pensée » plutôt que de dire, par exemple, « philosophie », qui n'est qu'une discipline pratiquée par la pensée, non seulement dans le contexte islamique, mais dans tous les contextes. Et j'insiste aussi sur cette définition parce que la pensée islamique, comme la pensée chrétienne, comme la pensée juive au Moyen Âge, n'a pas séparé les disciplines de la connaissance comme nous les séparons aujourd'hui. Par exemple, la pratique de la philosophie, l'enseignement de la philosophie est indissociable de l'enseignement des langues, du droit, des autres disciplines comme l'histoire et même la géographie. Toutes les disciplines du savoir sont convoquées et font partie d'un exercice unifié et unifiant de la pensée. Cela veut dire que nous vivons, nous, modernes, dans la situation créée après le XVIe siècle en Europe. Par exemple, la théologie, qui est une partie essentielle, une discipline essentielle de la connaissance des religions, est inséparable de la philosophie. Or, ces deux disciplines intellectuelles très importantes vont se trouver séparées à partir du XVIe siècle. Ce sont là des faits d'histoire qui ont leur retentissement sur la manière dont nous interprétons le religieux aujourd'hui et dont nous percevons le religieux aujourd'hui. Ceci dit, si en Europe il y a eu cette séparation, pour des raisons très importantes d'interaction et de compétition entre l'Église comme institution de pouvoir et pas seulement comme lieu d'expression de la religion et l'État, compétition qui aboutit au XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle et dans ce XXe siècle à la séparation de ces deux institutions de pouvoir, l'Église et l'État. Si en Europe on a suivi cette trajectoire-là, du côté de la pensée islamique, et c'est un fait important, justement à partir du XIIIe, XIVe siècle déjà, il va y avoir non pas une séparation comme en Europe entre l'activité théologico-juridique d'un côté et l'activité philosophique, au sens où j'ai défini la philosophie antique et médiévale, c'est-à-dire de la connaissance scientifique globale, du côté islamique, la philosophie, malheureusement, disparaît du champ intellectuel de la pensée islamique. Et ceci a des conséquences que nous observons aujourd'hui dans la pratique actuelle de la pensée islamique, où les apports de la philosophie, qui sont tout à fait essentiels, où l'attitude critique et interrogative caractéristique de la raison philosophique, qui a été fortement représentée dans la période que l'on appelle classique de la pensée islamique, c'est-à-dire entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle, ce rôle de la philosophie va manquer depuis le XIIIe siècle, je le répète, jusqu'à nos jours. Et lorsque nous avons aujourd'hui ces discussions que vous connaissez, parce qu'on en parle tous les jours, et dans toutes les conférences, et dans tous les livres, pour savoir si l'islam est compatible avec la laïcité ou contraire à la laïcité, si l'islam est compatible avec la démocratie ou contraire à la démocratie, ces problèmes-là ne sont pas traités de la même façon en Europe et en islam, en contexte islamique. Non pas parce que l'islam comme religion et comme doctrine religieuse s'oppose à la pratique de la philosophie. Non pas parce que l'islam, comme on le dit, est intrinsèquement hostile à la culture laïque, à la culture philosophique, mais parce que les outils de la pensée qui ont été développés pendant tout le Moyen Âge, du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, aussi bien dans la pensée juive que dans la pensée islamique et la pensée chrétienne, ces outils intellectuels ont continué à fonctionner et ont été développés en contexte européen, sans discontinuité du XVIe siècle jusqu'à nos jours, alors que du côté islamique, ces outils-là n'ont pas été développés avec la même continuité, la même intensité du côté islamique. Évidemment, vous allez me demander pourquoi cela. Nous le verrons tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais revenir à la pensée islamique. J'ai expliqué le mot « pensée » et ce que recouvre le mot « pensée » lorsque nous voulons aborder ce domaine de la connaissance. Expliquons maintenant le mot « islamique » que recouvre le qualificatif « islamique ». En quoi la pensée est islamique ? Il m'est même arrivé de parler et d'écrire tout un livre sur la raison islamique. Un livre que j'ai intitulé « Critique de la raison islamique ». Que représente ce qualificatif ? Ce qualificatif ne vise pas à défendre l'idée d'une raison qui serait spécifiquement islamique et irréductible au travail de la raison dans d'autres cultures. On peut parler d'une raison islamique comme on peut parler d'une raison chrétienne ou bouddhiste ou hindouiste ou marxiste, ou comme on parle aussi d'une raison française ou allemande, parce que la raison travaille toujours dans des contextes linguistiques et culturels déterminés, des contextes linguistiques et culturels qui changent au cours de l'histoire. La raison française telle qu'elle s'exerçait au XVIIe siècle est différente de la raison déjà au XVIIIe siècle, avec le mouvement des Lumières. Elle sera différente au XIXe siècle et elle est en train de faire des sauts nouveaux vers une autre forme d'exercice, d'autres formes d'interrogation qui sont introduites aujourd'hui par les sciences de l'homme et de la société et qui modifient sans cesse l'exercice de la raison. C'est toujours la même raison qui est distribuée à tous les êtres humains, de la même façon. Mais cette raison accomplit des tâches, introduit des interrogations, pousse à l'initiative dans l'interprétation du monde, de l'histoire et de la condition humaine, selon les moments historiques où elle s'exerce et selon les contextes culturels, linguistiques, politiques où elle s'exerce. C'est ce qu'on appelle l'historicité de la raison. C'est cette approche de la raison qui utilise les outils et le cadre de réflexion et d'interprétation que nous fournit la science historique moderne. C'est cela que je voulais et que je veux introduire dans l'étude historique de la pensée islamique et de ce que les musulmans, comme d'autres, appellent la raison, qui est, encore une fois, la faculté également partagée entre tous les hommes. Pourquoi insister sur cet aspect de la critique de la raison telle qu'elle s'est exercée dans le cadre islamique? C'est justement pour répondre à toutes les questions actuelles qui se posent et qui demeurent sans réponse adéquate dans toutes les sociétés contemporaines où le mot islam est une référence obsédante, occupant tout le terrain du discours social, comme vous le savez, revendiquant le contrôle des conduites de tous les acteurs sociaux pour que ces conduites soient conformes à des enseignements divins donnés dans le Coran. Cet islam-là, ainsi consommé par ce que j'appelle les acteurs sociaux, c'est très important de les appeler ainsi, parce que ce que je suis en train de vous dire au sujet de l'islam, je peux l'appliquer mutatis mutandis pour l'histoire de toutes les autres pensées religieuses. Et c'est cela l'intérêt de cette approche que j'essaye d'introduire au sujet de la pensée islamique. Cette approche qui consiste à soulever des problèmes pour pouvoir apporter des réponses plus adéquates, par exemple, au problème de l'État, ou bien au problème de la société civile, ou bien au problème de la construction du droit aujourd'hui dans ces sociétés-là, au lieu d'en rester comme nous le sommes, à la revendication d'une application stricte de ce que les mouvements islamistes contemporains appellent la charia, c'est-à-dire la loi divine. Et je reviendrai sur l'analyse de ce concept. Le droit est qualifié de musulman. Et quand on dit musulman, ça veut dire qu'il est lié aux instructions, aux enseignements religieux consignés dans le Coran et la tradition islamique. Le christianisme s'est trouvé exactement dans la même situation au Moyen-Âge lorsqu'il a construit le droit canon, qui est toujours le droit de l'Église. C'est depuis la séparation, bien sûr, qu'il y a le droit construit par nos parlements, et le droit canon qui continue d'avoir ses applications dans la vie de l'Église, mais cette fois de l'Église réduite à ses responsabilités et à son fonctionnement spirituel. Parce que l'Église a été bousculée, comme vous le savez, par les grands mouvements de la pensée, les grands mouvements de la connaissance scientifique, les grands mouvements du capitalisme industriel économique. Tout cela a contribué à créer un espace de la connaissance, de la réflexion, de la recherche qui a abouti au changement des perspectives de la raison et de ce que la raison nous enseigne et nous permet de comprendre aujourd'hui du côté toujours de la trajectoire européenne. Du côté islamique, cela n'est pas le cas. Alors essayons de trouver quelques explications. Je ne vais pas vous donner ce soir toutes les explications, mais vous voyez que j'essaye de faire surgir devant vous un certain nombre de questions brûlantes actuellement, qui sont évoquées indirectement dans le discours islamique contemporain, indirectement, et qui sont transcrites, je dis bien transcrites, dans la littérature politologique, c'est-à-dire qu'écrivent nos collègues des sciences politiques, vous allez en avoir dans les prochaines conférences, ils transcrivent le discours actuel des acteurs sociaux musulmans, ils disent qu'ils revendiquent ceci et qu'ils veulent ceci, etc. Mais cette littérature ne vous aide pas à comprendre les enjeux de la philosophie du droit lorsque nous sommes dans un droit de source religieuse et dans un droit laïque, construit, élaboré, changé par les parlements dans le cadre du fonctionnement démocratique des États. Alors, pour comprendre cela, il est nécessaire de revenir en arrière dans l'histoire. Et je souligne ici aussi une pratique de ceux qui écrivent sur l'islam aujourd'hui et qui se contentent de décrire uniquement ce qui se passe dans les sociétés depuis les années au plus 60, 70 et même il y en a qui s'enferment dans les années 80, 90 que nous vivons, les 20 dernières années. C'est ce qu'on appelle la courte durée dans l'histoire. Or, les historiens nous enseignent depuis longtemps et depuis les grandes leçons de Fernand Braudel en France, mais il y a d'autres historiens qui ont modifié justement notre manière de réfléchir dans un cadre de critique historique des cultures et des civilisations. On ne peut pas comprendre les événements de la courte durée sans les rattacher à ce que Fernand Braudel a appelé la moyenne durée et surtout la longue durée. Et vous voyez ici combien une information approfondie, justement, tenant compte des données de la longue durée, est nécessaire pour modifier notre perception des événements actuels, notre interprétation des événements actuels. Au lieu de revendiquer tout le temps des explications sur le djihad, sur le sort malheureux des femmes dans l'islam, sur le voile, sur etc., sans s'interroger sur les liens vivants, profonds, qui existent entre les conduites actuelles, les revendications actuelles, et ce qui a été légué par un passé lointain, mais qui, pour la conscience religieuse, est un passé toujours vivant. C'est ce que les religieux, les théologiens, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, toutes les religions, revendiquent la mémoire vivante. Toute la mémoire vivante du moment fondateur de chaque religion. Et c'est ainsi que les Juifs vous feront remonter toujours à la Bible, et ils sont toujours en train de lire la Bible et de la commenter. Les chrétiens parlent des évangiles et du temps de Jésus, et les musulmans parlent du Coran et du moment de l'émergence de ce qui est, pour les musulmans, la révélation coranique. Cela est une mémoire vivante dans le cadre de la foi religieuse. Évidemment, lorsqu'on perd cette foi religieuse, on ne se réfère pas à ces moments fondateurs comme des moments de ressourcement spirituel, des moments où l'on vient trouver ou retrouver les légitimités nécessaires pour justifier notre conduite aujourd'hui. Mais même pour ceux qui sont incroyants, il reste intellectuellement et culturellement important qu'ils comprennent ce rôle historique, psychologique, social, culturel, de la tradition vivante qui est toujours présente parmi nous, même dans les pays les plus laïcisés comme la France. Vous voyez comment les chrétiens parlent de la tradition vivante, ce qu'ils appellent la tradition vivante. Là, nous sommes absolument dans le même terrain de fonctionnement de l'esprit humain et de fonctionnement de ce qu'on peut appeler l'imaginaire religieux qui nourrit la vie religieuse des croyants. Revenons donc au moment fondateur de ce que nous appelons l'islam. Ce moment fondateur peut être présenté et doit être présenté de deux façons. Dans un contexte laïque qui est le nôtre ici, et qui est le nôtre dans tout espace public. Quand on prend la parole dans l'espace public, il est toujours nécessaire, quand on traite de la religion, de conserver une distance critique, une égale distance critique vis-à-vis de tout ce que l'on présente au public, sans prendre position pour telle religion contre une autre, ou même sans l'autre, sans mentionner l'autre. Vous voyez que dans mon propos, je ne cesse de vous référer aux autres exemples religieux. Je ne me contente pas de vous présenter exclusivement l'exemple islamique. C'est cela, l'exigence intellectuelle et scientifique d'une attitude laïque respectueuse des choix qui doivent être laissés à chaque auditeur en ce qui concerne ses croyances ou ses préférences. Ce que nous avons à comprendre, ce sont les mécanismes communs, les postulats communs, les fonctionnements communs à toutes les communautés religieuses, ou même à toutes les communautés liées par une idéologie même séculière. Voilà pourquoi le Coran, par exemple, je ne le présente pas uniquement en disant « voici comment les musulmans considèrent le Coran et vivent du Coran ». Je vais le dire, mais je vais dire autre chose. La version des historiens, la version des anthropologues, la version des sociologues, la version des linguistes, sur ce que tous ces chercheurs-là vont appeler non pas le Coran directement, ou l'Évangile directement, ou la Bible directement, etc. Je peux continuer. Mais sur ce qu'on va appeler le fait coranique, le fait évangélique, le fait biblique, que nous allons distinguer du fait islamique, du fait chrétien, du fait juif. Ce sont là deux ordres de faits. Un fait, c'est ce qui est devant nous. On peut dire phénomène, si vous voulez. C'est la même chose. C'est quelque chose qui est là, qui nous interroge, qui est difficile à pénétrer, difficile à comprendre, qui sans cesse met en échec toutes les théories que nous construisons et toutes les approches que nous construisons en disant « non, je résiste ». Ça n'est pas cela. Il faut continuer. C'est cela, la différence entre ces trois faits et je les mets ensemble. Je ne les sépare pas dans l'approche aussi bien religieuse que dans l'approche que je n'aime pas qualifier de scientifique, parce que vous allez dire tout de suite que c'est du scientisme opposé au spiritualisme, etc. Vous connaissez cette opposition qui n'a pas de raison d'être dans les approches modernes, actuelles, des études sur les religions. Les musulmans vous diront, et ils disent, le Coran est la révélation mot à mot de la parole de Dieu lui-même, médiatisée par le prophète Mohammed, médiatisée, c'est-à-dire qu'il a prêté son organe vocal pour transmettre cette parole et l'articuler en langue arabe devant ses contemporains. Ses contemporains l'ont écouté. Les uns l'ont suivi, d'autres s'y sont opposés violemment, comme toujours pour les prophètes. Et ça, c'est après un long processus que cette parole révélée, recueillie dans les mémoires des contemporains, va être transmise, selon la tradition musulmane, 15 ans après la mort du prophète. L'ensemble des révélations se trouve collecté pour être mise par écrit et constituer ce volume, ces pages reliées que les musulmans appellent le mushaf, justement, les pages reliées, c'est le sens du mushaf, et que nous nommons couramment le Coran. À partir de là, ce qui a été une parole vivante, entendue dans un contexte oral, va devenir exclusivement un texte écrit. Ça, c'est très important. C'est extrêmement important. Et ce que je dis là, selon la croyance musulmane, je peux le dire, vous le savez, mot pour mot, pour le cas du christianisme, de Jésus. Jésus de Nazareth, comme Mohammed ibn Abdallah, avant d'être Jésus-Christ, et Mohammed ibn Abdallah avant d'être le prophète, vous voyez le parallélisme. Jésus de Nazareth s'est exprimé devant les pêcheurs de Palestine, non pas en grec, mais en langue araméenne, qui est une langue sémitique, comme l'arabe et l'hébreu. Et la communication s'est faite de façon orale, dans un contexte de culture orale, et non pas de culture écrite. Je mentionne cela parce que les anthropologues aujourd'hui nous montrent que le régime intellectuel de la raison est tout à fait différent lorsque la raison fonctionne en contexte oral et lorsqu'elle fonctionne en contexte écrit. Un ouvrage que vous pouvez lire récent d'un anthropologue anglais publié aux presses universitaires de France, Jacques Goudy, qui s'appelle « Entre l'oral et l'écrit ». Alors vous voyez, on donne aux croyants ce qu'il faut leur donner, certes. Mais il faut aussi donner quand même à la connaissance qu'élaborent les chercheurs ce que nous devons lui donner. Je n'ai pas le temps ici de développer, comme il se doit, les enjeux de sens. Les enjeux de sens. Du sens de cette parole reçue comme parole de Dieu, ou verbe de Dieu incarné dans la personne du Christ. Les enjeux de sens dans le passage de l'oral à l'écrit sont considérables. Or, toute la tradition religieuse va insister, va s'épuiser à interroger le texte fondateur pour l'interpréter, en faire l'exégèse, comme vous savez, afin de tirer de cette exégèse une loi, un droit canon, ou une loi islamique, ou la loi, selon la loi juive, pour en tirer un système de valeurs éthiques, pour en tirer même une sémantique. Alors vous voyez, tout ceci engage des problèmes tout à fait considérables qui ne sont pas pris en charge comme ils doivent l'être, ni par la pensée médiévale. Mais on ne saurait demander à la pensée médiévale, ce serait anachronique, de faire le travail que nous commençons seulement aujourd'hui à faire. On peut donc accepter que la pensée médiévale n'ait pas posé les problèmes qu'aujourd'hui nous pouvons poser. Mais aujourd'hui, il faut les poser. Et le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la pensée islamique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, c'est que, par exemple, ce que les historiens écrivent sous le nom d'histoire du texte coranique, car il a une histoire, depuis sa formation au temps du calife Othman jusqu'au 4e, 5e siècle, il y a toute une histoire de ce texte qui n'est pas encore écrite, bien que des chercheurs occidentaux se soient intéressés au sujet. Les musulmans ne se sont pas encore convertis à cette idée moderne de faire une histoire du texte coranique comme on a fait une histoire du texte biblique et du texte évangélique. C'est un travail primordial et important parce qu'il va conditionner tout le travail d'exégèse des textes sacrés et il va conditionner les problèmes liés, comme je vous l'ai dit, au droit, à la confection d'un droit religieux, ce droit religieux qui rejaillit dans nos sociétés actuellement, sous la forme des revendications que nous connaissons, pas seulement pour le voile, mais pour beaucoup d'autres questions. Et c'est là qu'intervient, vous le savez, le débat entre une attitude croyante qui s'en tient à la version orthodoxe, qui est elle-même une version construite historiquement par les historiens qui se sont exprimés du 7e siècle jusqu'au 11e, 12e siècle sur ces problèmes justement du rapport avec le texte fondateur. Et la reprise critique de ces problèmes-là aujourd'hui se trouve obstruée, retardée, sinon carrément refusée, par la situation politique des États qui ont émergé dans tous les pays musulmans comme je vous l'ai dit, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc, et etc., du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tous ces États-là ont émergé dans les années 50, dans les années 60, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un fait aussi qu'il faut prendre en considération pour comprendre l'état actuel de la pensée et des recherches de la pensée. En contexte islamique, je dis toujours contexte, au pluriel bien sûr. C'est mieux que de dire l'islam tout court, qui est une vaste abstraction des conditions intellectuelles et scientifiques de critique de la manière dont les théologiens et les gestionnaires du sacré, comme les appelle Max Weber, la manière dont ils interprètent le sacré et le font fonctionner dans les sociétés. Cette page est décrite par les historiens comme la page de l'âge libéral de la pensée islamique, parce qu'il y avait un libéralisme intellectuel, comme celui qui s'est manifesté en Europe, qui avait l'audace, le courage intellectuel de poser des problèmes qui jusque-là n'étaient pas posés. Par exemple, un autre penseur qui s'appelle Ali Abd al-Razik, encore un Égyptien, en 1925, a écrit un livre sur le califat comme institution. Et il a esquissé une interprétation du califat pour dire que le califat n'a rien de spécifiquement religieux. C'est un État qui s'est constitué, certes, avec une inspiration religieuse, islamique, mais qui n'est pas nécessairement lié à des normes religieuses. Il s'est développé en fonction des luttes politiques qui ont existé tout le temps dans l'histoire des sociétés musulmanes. Ce livre a fait l'objet d'un débat furieux en 1925. Et aujourd'hui, ce même ouvrage ressort dans le contexte actuel, et ce même ouvrage produit des débats encore plus intenses que ceux qu'il avait produits en 1925, parce qu'aujourd'hui, l'interprétation fondamentaliste est sociologiquement plus forte qu'elle ne l'a été dans les années 1925. Et ceci nous permet, cet exemple et beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps de citer, nous permet de comprendre les changements qui vont être introduits après la Deuxième Guerre mondiale. Là, je vais aller vite pour vous donner le temps de poser des questions. Vous avez deux périodes principales après la Deuxième Guerre mondiale. Une période marquée par les luttes de libération coloniale, donc par le combat politique. Et dans ce combat politique de libération, la religion, bien sûr, se trouve mobilisée, parce que la religion mobilise fortement les imaginaires sociaux. C'est là que se concentre ce que chaque communauté appelle ses valeurs et son identité. Voilà pourquoi, tout naturellement, on va mobiliser l'islam pour mener cette lutte qui est une lutte d'essence politique de libération vis-à-vis des puissances coloniales. Ça, c'est une première page qui va durer pratiquement jusqu'aux années 60, mais qui dure encore, au moins pour le cas de la Palestine, puisque ce problème demeure posé de la façon que vous savez. Et le problème de la Palestine et d'Israël et de la création d'Israël pèse lourdement, lourdement. À lui seul, il mériterait bien sûr une longue analyse. Il pèse lourdement sur le fonctionnement de la pensée en contexte islamique. Pourquoi ? Parce que dans ce combat, aussi bien du côté juif que du côté islamique, les deux religions se trouvent mobilisées pour donner des légitimités au combat politique et aux revendications politiques des deux partis. Vous voyez comment le religieux, la dimension religieuse, se trouve engagée malgré elle, en quelque sorte, dans un devenir et des transformations du fait des pressions et des urgences imposées par le combat politique. Ceci est très important pour comprendre que les religions ne vivent pas seules dans leur sphère ou dans leur ciel, mais qu'elles sont profondément mêlées aux luttes des hommes pour le pouvoir, aux luttes des hommes pour la puissance. Et que si les religions ont pour vocation de nourrir chez l'homme un désir de sens, un désir de donner un sens à la vie humaine, en ne limitant pas la vie humaine à un bref passage terrestre, mais en donnant à l'être humain de l'espérance par-delà sa vie terrestre. Tout cela, c'est un enseignement que nous trouvons dans toutes les religions. Et cela relève spécifiquement de la sphère de ce que nous appellerons les religions proprement dites. Mais ces religions s'emparent de l'affectivité profonde des êtres humains. Elles s'emparent de l'âme profonde de chaque croyant et de son imaginaire. Et c'est parce qu'elles s'emparent de ces profondeurs de notre sujet humain, de ce que nous sommes en tant que sujet total, que les religions sont toujours là lorsqu'il s'agit d'un combat politique. Vous voyez qu'il n'est pas simple de dire de l'islam, comme nous le disons couramment, comme si c'était quelque chose d'absolument acquis et tout simple, que l'islam ne sépare pas le politique du religieux. C'est facile à dire ainsi, lorsqu'on refuse de faire toutes les analyses critiques que j'ai essayé de vous présenter jusqu'ici, et il y en a beaucoup d'autres qu'il faudra vous présenter. La période de lutte de libération coloniale se termine, politiquement du moins, dans les années 60. Viennent alors les États, comme je vous ai dit, qui prennent le pouvoir, les États nationaux. N'oublions pas que ces États ont pris le pouvoir dans les années 50 et 60 dans le contexte de la guerre froide, dans le contexte d'un communisme encore fort et militant, d'une Union soviétique présente et menaçante, et d'une compétition géopolitique entre le monde libre et l'Union soviétique pour prendre sous leur contrôle ces nouveaux États. C'est ce qui est arrivé à l'Algérie en particulier. Immédiatement après son indépendance, l'obédience à Moscou l'a emporté sur l'obédience à l'autre camp. C'est la période aussi de Nasser en Égypte et de l'idéologie nassérienne de lutte pour unifier le monde arabe, la nation arabe avec un N majuscule, et pour engager la nation arabe dans une évolution historique de type laïque. Nasser a mené la lutte contre les frères musulmans. Il les a mis en prison même. Vous voyez, c'est une page qu'on oublie. Ça, on oublie vite les choses. Nous sommes en train de vivre dans la période de ce qu'on appelle la pensée jetable. C'est comme les objets jetables, l'assiette jetable ou la fourchette jetable Mais une pensée importante aujourd'hui, ah oui, c'est très important. Mais on, demain, c'est terminé. Il y en a une autre qui la remplace. Et oui, ça, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. De ne pas avoir la mémoire historique des choses importantes qui pourtant sont enregistrées dans les profondeurs de la mémoire collective et agissent dans l'imaginaire collectif et ressortent et commandent les conduites collectives des peuples. Tout cela, c'est pour les spéculateurs et les chercheurs, ce n'est pas pour les citoyens qui, eux, sont emportés dans les débats du genre de celui que nous avons en ce moment sur la délinquance des jeunes. Que de choses ne sont pas dites au sujet de ce problème. Deuxième période contemporaine. Khomeini prend le pouvoir en Iran, chasse le régime du Shah en 1979, février 1979. Souvenez-vous, il y a parmi vous des gens qui sont assez âgés pour se souvenir de cette période que nous avons tous vécue. Que de passion politique de part et d'autre, que d'exclusion réciproque et définitive au nom d'un islam menaçant, d'un islam qui va bouleverser l'Occident et compromettre les valeurs durement conquises de l'Occident. Ce langage n'a pas disparu. Il est toujours là. Nous l'entendons, nous le lisons et nous l'utilisons et nous obéissons sans le soumettre à l'analyse critique, là aussi. Ce que les linguistes appellent l'analyse critique du discours, de tout discours humain, qu'il soit religieux, politique, juridique, philosophique, tout ce qu'on veut. Je ne défends pas, bien sûr, le régime de Khomeini en Iran. Mais c'est un événement qui doit nous faire réfléchir pour comprendre les orientations nouvelles qui vont être imprimées à l'exercice de la pensée, toujours, dans les sociétés contemporaines qui vont se référer à l'islam plus qu'elles ne l'avaient fait dans les périodes précédentes. L'islam va devenir le référent obligé pour la construction politique de l'État et pour l'instauration d'un ordre juridique et social qui va être qualifié d'islamique. Nasser meurt en 1970. Et tout ce qui se passe après Nasser, avec sa date, etc., c'est justement ce retour du religieux, plus fort que jamais, mais un retour du religieux dans un vide, ou un quasi-vide, intellectuel et scientifique, dont se servirait la pensée pour contenir les débordements idéologiques d'une religion instrumentalisée pour des combats politiques absolument légitimes, mais qui ne saurait justifier toutes les manipulations dont la tradition islamique, dont la pensée islamique va faire l'objet par des acteurs sociaux qui n'ont pas eu la chance de recevoir des formations, d'aller à l'université et d'aller même recevoir un enseignement dans les lycées, enseignement secondaire. Souvenez-vous, vous savez, ce qui aggrave ce que je suis en train de dire et les conditions d'exercice de la pensée dans une société. Dans toutes les sociétés musulmanes, l'accroissement démographique entre 1960 et 1990 a été de 3/4, 3 fois. La population est multipliée par 3 en l'espace de 30 ans. Ce qui crée des problèmes tout à fait considérables et modifie, bouleverse complètement ce que les sociologues appellent les cadres sociaux de la connaissance. Parce que la connaissance, lorsqu'elle est produite par des chercheurs, une pensée forte, nourrissante, critique, produite par des penseurs, si elle ne trouve pas dans la société un accueil, des cadres capables de la recevoir, de la diffuser à leur tour et de lui donner ses fonctions dans la société, cette pensée reste lettre morte. C'est ainsi que la philosophie a disparu, comme je vous l'ai dit, pour des raisons de modification en profondeur des cadres de la connaissance. La philosophie a disparu après la mort d'Averroès, dont vous avez entendu beaucoup parler durant l'année passée, 98, parce qu'il est mort en 1198. On a célébré partout son 800e centenaire, et l'École nationale d'administration, nous l'avons appris récemment, a baptisé la promotion 2000 la promotion Averroès. Ça, c'est un geste formidable qui donne à espérer que le regard des jeunes sur les problèmes qui nous sont posés vont être traités d'une manière différente que ce que nous sommes encore en train de faire, parce que nous réfléchissons encore dans les cadres d'une pensée souvent qui date du 19e siècle. Donc le phénomène de ce qu'on appelle la révolution islamique est un phénomène tout à fait considérable, un immense laboratoire social et historique pour les sciences sociales d'aujourd'hui, pour enrichir leur méthodologie et leurs problématiques, pour enrichir nos horizons d'interprétation et nos horizons de sens, et par conséquent, notre action en tant que citoyens dans l'espace politique nouveau qui s'ouvre devant nous, surtout en Europe, avec la construction de l'Union européenne. Car il faut penser à ça. Et c'est dans cette perspective nouvelle, enthousiasmante, à beaucoup d'égards, d'ouverture sur les civilisations et les cultures, d'une page nouvelle de l'histoire culturelle des hommes, dans cette perspective, la construction de l'Union européenne est un moment historique formidable. Et voyez comment nous le vivons dans un débat franco-français qui défend désespérément une conception de la souveraineté nationale qui date du 19e siècle. Voilà des choses. Alors que l'histoire frappe à la porte, à toutes les portes. Mais il ne faut pas la laisser frapper toujours en utilisant la violence. Je n'ai pas abordé la question de la violence. Elle fait partie intégrante de l'histoire de la pensée islamique et de l'histoire de la pensée européenne. Car il y a une interaction entre les deux. Et cette interaction, je vous l'ai dit dès le début, elle date de la première émergence de l'islam en Arabie. Cette histoire-là, il va falloir la réécrire. Et pour la réécrire, il va falloir engager des recherches sur l'histoire de l'ensemble des cultures du Proche-Orient, de ce Proche-Orient qui vit plusieurs tragédies qu'il ne mérite pas, pour essayer de voir ce qui s'est passé dans l'aventure religieuse et l'aventure scientifique, d'abord des peuples de la Méditerranée, parce que ça a commencé par là, la Grèce, Rome, les trois grandes religions monothéistes. C'est la Méditerranée, ce sont les peuples méditerranéens, c'est le Proche-Orient, c'est l'Afrique du Nord. ce Maghreb d'aujourd'hui livré aux tragédies et aux violences que nous connaissons. Tout cela doit être remis en chantier pour être étudié autrement, avec de nouvelles méthodes, comme je vous l'ai dit dès le début. Et vous voyez le parti considérable que l'on peut tirer de cette étude critique, humaniste et ouverte, de la pensée islamique enseignée à nos jeunes, pour ouvrir de nouvelles perspectives sur le sens de notre histoire, et nous revenons au problème du sens, perçu, compris et mis en pratique, non pas non plus avec cette vision géopolitique de l'hégémonie de l'Occident qui contrôle l'ensemble du monde, mais avec la vision nouvelle d'une solidarité des peuples pour produire une histoire où toutes les cultures, avec leur richesse, seraient investies dans cette histoire vécue ensemble dans la solidarité, avec pour principe que tout ce qui diminue la condition humaine, où que ce soit sur notre petite terre, me diminue, diminue mon pays, diminue ma tradition, diminue ma pensée. Malheureusement, nous sommes encore loin de penser de la sorte. Je m'excuse de vous avoir trop retenu peut-être, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'espère, lorsque vous entendrez parler du fondamentalisme, vous vous souviendrez de toutes ces mises au point qui se veulent essentiellement historiques, anthropologiques, théologiques, philosophiques, c'est-à-dire qu'elles mobilisent toutes les ressources de la pensée humaine. Je vous remercie.
Voilà, je vous propose que nous ouvrions une discussion. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? Il y a une question ici.
Bonjour. J'ai entendu dernièrement un imam dire que pendant que vous noircissez vos pages blanches pendant les nuits, moi je passais les miennes à blanchir mon cœur noirci. Ce discours était...
Je m'excuse, je n'entends pas bien.
Ah, excusez-moi. Il y avait un imam à la mosquée de Paris vendredi dernier, oui, qui a dit la phrase suivante: pendant que vous passiez vos nuits à noircir vos pages blanches, je passais les miennes à blanchir mon cœur noirci. Et moi, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un tel discours tenu à la mosquée de Paris, donc devant un public qui, je ne les sous-estime pas, mais qui ne lit pas beaucoup, c'est quand même très dangereux, et en fait, ça va à l'encontre de l'influence de la pensée islamique chez ce public qui est carrément...
Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, il faut admettre que l'ignorance est une donnée des sociétés et une donnée pour chacune des personnes que nous sommes. Nous ne connaissons jamais tout ce qu'il faudrait connaître. Donc, l'ignorance, je vous l'ai assez dit, malheureusement, s'est développée à grande échelle dans les sociétés musulmanes. Les sociétés musulmanes ignorent encore leur passé, leur histoire. Elles ignorent les ressources de la pensée islamique qui ont été accumulées pendant ce que les musulmans appellent l'âge d'or de cette pensée, c'est-à-dire l'âge classique du 7e au 13e siècle. Je ne dis pas que la pensée contemporaine devrait revenir à cette pensée médiévale. Mais cette pensée médiévale n'aurait jamais dit une phrase comme celle que vous venez de rapporter dans la bouche d'un imam. Fakhreddin al-Razi, Ibn Sina, Abu Hayyan al-Tawhidi, et je peux citer beaucoup de noms, jamais ne prononcerait une phrase comme celle-ci. Et nous sommes au Moyen Âge. Nous devons donc, en tant qu'historiens et sociologues, étudier la genèse historique, sociologique et politique de l'ignorance dont les musulmans souffrent aujourd'hui à l'égard de leur propre tradition dont cependant ils se revendiquent. C'est un fait, c'est une donnée. Ce n'est pas quelque chose que l'on invente, ce n'est pas une accusation. Et je la prononce, ça me fait mal de le dire, parce que j'appartiens à cette tradition aussi. Mais c'est une donnée. Et en tant qu'enseignant, professeur, je sais la lutte, les luttes que je mène constamment pour essayer d'introduire un peu de lumière et de connaissance dans une ignorance dominante. Cette parole, il faut l'attribuer tout simplement à une ignorance de ce que représente justement une pensée islamique qui a connu tout de même, en plein Moyen Âge, une attitude humaniste, humaniste, au sens de l'humanisme européen du XVIe siècle. Permettez-moi de vous renvoyer à un livre que j'ai écrit et qui s'appelle « L'humanisme arabe au Xe siècle ». Xe, ça fait 10 siècles. Eh bien, en Iran actuel, dans l'Irak actuel, il s'est développé des mouvements intellectuels si riches, si pluriels, la pluralité des doctrines et des écoles, les échanges intenses entre ces écoles, dans une atmosphère de liberté intellectuelle, qui nous étonne quand nous pensons que ça se passe au Moyen Âge. Aujourd'hui, cette liberté et ce pluralisme sont sous le contrôle de l'État. Ce qui veut dire que la religion est étatisée. Je n'ai pas prononcé encore ce mot. Elle est étatisée. Ne disons pas que l'islam mélange, encore une fois. Nous devons dire au contraire, et ça c'est une vérité qui saute aux yeux, que nous pouvons contrôler partout, l'État, les États qui ont émergé, comme je vous ai dit, après les indépendances, ont immédiatement étatisé la religion. Ils ont un ministère des affaires religieuses au gouvernement. Notez que même en France, nous avons un ministre de l'Intérieur qui est en même temps le ministre des cultes. Mais évidemment, il contrôle les cultes d'une autre manière que le ministre des Affaires religieuses qui fonctionne dans un grand nombre de pays musulmans actuels. Et c'est cette situation d'ignorance qu'il faudrait essayer de combler. Il faut y remédier, au moins pour les musulmans qui vivent en Europe et qui sont citoyens européens désormais. Vous savez peut-être, certains d'entre vous, que j'ai mené depuis 10 ans une lutte pour créer en France une école nationale d'études islamiques, une grande école nationale d'études islamiques, comme il existe une école d'administration, comme il existe une école des écoles d'ingénieurs, etc., une école qui soit conçue pour remplir ce vide énorme. On ne peut pas laisser 4 millions de citoyens qui se réclament de cette religion en France sans aucun espace d'expression scientifique et intellectuelle. C'est malsain et dangereux. Il a fallu 10 ans d'explication, je veux dire. C'est pas une lutte violente. Aux responsables, aux différentes majorités qui se sont succédées, pour expliquer les choses comme je vous les ai expliquées maintenant et donner les raisons comme je viens de vous les donner, nous venons seulement d'aboutir. Nous venons d'aboutir grâce en particulier à Jean-Pierre Chevènement, puisque c'est lui qui a en charge les cultes et qui a convaincu ses collègues du gouvernement d'aller de l'avant. Et on a réussi. Et c'est une école qui sera créée sous la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire avec toutes les garanties de fonctionnement laïque de cette institution. Parce que notre imaginaire est tel que dès qu'on dit institut islamique, ça y est, c'est la théologie, c'est le fondamentalisme, c'est le fanatisme. Mais non, non, vous allez voir, ça va fonctionner vraiment comme un lieu de recherche, d'explication. Il y aura de nombreuses conférences de ce genre tout au long de l'année, s'adressant à tout le public français, sans distinction, pour essayer de nourrir un débat de civilisation. C'est un débat de civilisation en France et en Europe. Et en Europe, la Hollande aussi l'a fait. Et d'autres suivront, j'en suis sûr. Et donc il y a là quelque chose qui va se passer pour remédier à cette ignorance, à ce que les imams ne prononcent pas des phrases comme celles que vous venez de prononcer. Et j'en connais d'autres, hein, je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il va falloir avoir de la patience pédagogique et accepter longtemps que des phrases comme cela soient prononcées, mais les citoyens que nous sommes doivent essayer de remédier à cette situation le plus tôt possible. C'est tout ce que je peux vous dire.
Monsieur, oui, là-bas. Attendez, il y a un monsieur qui a le micro là-bas. On va donner la parole au fur et à mesure.
S'il vous plaît, ne conviendrait-il pas de rappeler à un public occidental l'ignorance où était l'Occident chrétien à l'époque où fleurissait l'empire de Frédéric de Souabe, par exemple, en Sicile. Cette ignorance...
Bien sûr, ça, c'est une page d'histoire.
Elle n'est pas unilatérale.
Oui, oui, c'est une page d'histoire, effectivement. Du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, l'hégémonie intellectuelle et culturelle et scientifique était exercée par la langue arabe dans tout l'espace méditerranéen. La langue arabe. Les savants juifs, chrétiens, musulmans, de toutes les origines ethniques et culturelles, s'exprimaient en arabe, écrivaient en arabe, enseignaient en arabe, et la communication scientifique se faisait en arabe, comme aujourd'hui, nous avons tendance à utiliser l'anglais au niveau international pour la communication des savoirs. C'était un moment historique, effectivement, extrêmement important, mais comme il n'est pas enseigné dans les écoles, voilà quelque chose qui modifierait quand même la perception, effectivement, de la pensée islamique, mais qui n'est pas enseigné et que, donc, on ne peut pas accuser les citoyens de ne pas le connaître, puisque l'État les a privés de cet enseignement. Et j'espère qu'il va maintenant y remédier.
Monsieur, une autre question ici.
Monsieur, vous avez parlé de solidarité des peuples et aussi la fin de l'économie des occidentaux. Je veux bien, seulement les peuples étant supprimés peuvent même pas s'exprimer, et vous avez bien dit que on sait peut-être moins de l'histoire islamique dans les pays islamiques qu'ici en France, notamment si vous commencez à enseigner ça à un institut national. Est-ce que l'économie n'est pas plutôt liée à un modèle soviétique, qui n'est pas du tout critiqué par la France d'ailleurs, qui était importé d'abord en Algérie, aussi en Irak, en Syrie, je ne sais pas à quel degré, même avec la révolution islamique de Khomeini, aussi en Iran, c'est-à-dire la monopolisation de pouvoir, le contrôle de pensée et le refus d'intelligence et surtout du pluralisme dont vous avez parlé aussi. Je veux bien espérer avec vous que ça se peut établir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour servir aussi politiquement à ce genre de régime qui a justement instrumentalisé la religion pour mieux garder sa pouvoir et défigurer la religion et défigurer les vraies pensées islamiques? Qu'est-ce que votre idée pour aider les diplomates occidentaux de changer quelque chose, soit en Algérie, soit en Irak, ou je sais qu'il y a un comité de d'amitié franco-irakienne. J'espère que ça ne sert pas seulement pour admirer Saddam Hussein.
Oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire et qui sont à notre portée. Quand on est en position d'hégémonie, on a des responsabilités particulières. L'Europe, l'Amérique sont en position d'hégémonie, pas seulement économique et monétaire, elles sont en position d'hégémonie intellectuelle, scientifique, technologique, ce qui touche à la vie même de l'esprit. Il faut bien réaliser cela. Il y a une dépendance totale, non seulement des pays musulmans seulement, mais de l'ensemble du continent africain et d'une partie large du continent asiatique. Ils sont dépendants de la technologie qui n'est produite qu'en Europe et qui, pour longtemps, pour des raisons de ressources matérielles, pas de cerveau humain, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs musulmans parfaitement formés qui sont dans les universités et les centres de recherche européens et américains, parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux. Ça, c'est une donnée aussi, qui appauvrit considérablement les ressources d'une pensée islamique chez elles. Et ça est dû à la dialectique historique des puissances et des résidus, des puissants et des marginalisés au niveau de la terre entière. Depuis le 19e siècle, ça continue. C'est une histoire longue. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'histoire de la violence structurelle installée dans notre monde est une histoire de la dialectique des puissances et des résidus. Vous voyez de quoi je parle. Dans le monde, à partir de l'hégémonie européenne d'abord, et de sa fille l'Amérique, comme disait notre cher général, oui, c'est sa fille, mais une fille qui va de ses propres ailes qui volent et qui produit toutes les puissances qu'elle déploie. Donc là, c'est vraiment une histoire en profondeur qu'il va falloir réviser. Et ce qui est triste, c'est que durant les campagnes d'élection au Parlement européen, ce problème de la violence structurelle installée dans les rapports internationaux ne fait pas l'objet d'un débat politique dans les pays démocratiques. Les Français ne sont pas informés de ce qui se passe dans les officines diplomatiques. Et même dans notre Constitution, là, comme vous le savez, la politique étrangère est du domaine du président. Le gouvernement, c'est quelque chose, bien sûr, mais vous voyez comment est traitée la politique étrangère et les stratégies géopolitiques des nations puissante à l'égard du reste du monde, dont on sait partager les territoires même en allant occuper ces territoires depuis 1800 jusqu'à 1945. Et maintenant, on a quitté les territoires, on a restitué la souveraineté politique. Mais regardez les compétitions sauvages, les rivalités pour le partage des marchés. Le marché chinois, le marché hindou, le marché arabe, en particulier pour la France. Il faut raisonner sur ces problèmes. Parce que ces échanges-là et ces stratégies géopolitiques et géoéconomiques et monétaires génère la violence structurelle de notre monde. Il faut en avoir conscience, savoir analyser la genèse de cette violence structurelle, je dis bien structurelle parce que c'est dans la structure même des échanges que la violence s'exerce. Et cette violence joue un rôle déterminant dans la désintégration rapide de tous les codes culturels, coutumiers, religieux qui ont soutenu pendant des siècles les sociétés non occidentales. Et lorsque les codes culturels sont détruits, je peux en dire quelque chose. Je l'ai vécu personnellement. Je suis originaire de cette partie de l'Algérie que l'on appelle la Kabylie. La Kabylie a vécu jusqu'en 1962, vous m'entendez, 62, sans jamais appliquer ce qu'on appelle le droit musulman. Elle a vécu sur ce qu'on appelle les coutumes locales, le code coutumier local, avec un code de l'honneur intégré par tous les membres de tous les villages, en sorte que nous n'avions absolument pas besoin ni de police ni de gendarmes. Même pendant la présence française, il n'y avait ni police ni gendarmes en Kabylie. Essayez de réaliser cela et ce que cela veut dire. Les codes culturels et coutumiers ont été fracassés très durement par l'État national pour construire une conception de l'unité nationale que vous savez peut-être. Et maintenant, les sociétés se trouvent face à ces désintégrations, ce qui n'a rien à voir avec l'islam, mais ce qui a beaucoup à voir avec la violence structurelle générée par la structure des échanges internationaux, contemporains, traduits et appliqués par les nouveaux États qui étaient censés apporter d'autres solutions à ces sociétés dans les années 50 et dans les années 60. Voilà comment il faut analyser les problèmes, à mon avis, pour nourrir une nouvelle conscience politique sur les rapports internationaux. Nous n'avons pas de droit international aujourd'hui. Le droit international qui fonctionne a été constitué, construit depuis le début de ce siècle et la fin du XIXe siècle, au temps où les puissances coloniales se partageaient même les terres. Nous avons d'urgence besoin d'un droit international pour éviter ces choses dont je n'ose même pas parler devant vous, puisque vous suivez comme moi l'actualité. Et vous voyez à quel point les citoyens dans un pays démocratique, absolument démocratique, comment on les maintient en dehors des informations essentielles qui permettraient d'instaurer une nouvelle conscience politique à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, puisque nous parlons beaucoup de mondialisation, je crains fort que la mondialisation ne fasse que répéter et prolonger la violence structurelle introduite par la phase des sociétés industrielles depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60 et 70. Ce sont là des enjeux d'une extrême importance. Et nous ne les voyons pas, encore une fois, débattus dans le discours politique, surtout dans les campagnes électorales.
Je vous propose que nous prenions encore une question, madame, qui a le micro là-bas.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un tout petit peu plus sur la disparition historique de ceux que vous avez appelés les cadres sociaux qui permettaient de transmettre la pensée philosophique au XIIe siècle?
Oui.
Et nous dire si vous pensez qu'il puisse y avoir une réémergence de ces cadres sociaux par l'intermédiaire des musulmans présents dans les sociétés occidentales.
Oui, oui, je crois fermement qu'il va se passer des choses importantes à la fois pour les sociétés européennes et pour les communautés musulmanes qui vivent en Europe. Parce que beaucoup de conditions qui manquent dans les sociétés musulmanes elles-mêmes se trouvent réalisées dans les sociétés européennes, à condition tout de même qu'il y ait une ouverture politique, comme je viens de l'expliquer, une ouverture politique au niveau des États, et plus encore une ouverture politique...